Pas trop empiéter sur l'exposé de Philippe Delisle, on va lui donner la parole. Donc, le temps qu'il arrive, je présente. Merci. Philippe Delisle qui vient de l'université Jean Moulin Lyon 3 et va nous présenter son exposé sur, si je me trompe pas, Masque américain, identité coloniale et catholique belge, la série Tiger Joe de la Libre Belgique à Pilote.
Si je vais déjà
quelques
instants de mise en place technique.
Du coup, ta question, c'était
Oui, vous pouvez peut-être faire la question.
C'était juste
où est-ce que je trouve ma poste de travail? Je la trouve où, ma clé, là, là-dessus?
C'est pas le mien. Normalement, les sens, ils sont fichés.
Oui, parce que là, j'en fais ça.
Absolument rien, je vois même pas ce que c'est comme...
Non,
mais
oui.
Quand on vient, ça va tout ça.
Ah, ça, c'est pas ce travail-là.
Et puis, maintenant, donc, c'est Scott Snyder qui fait les nouveaux batteries. En tout cas, il a un masque qui est très beau. Enfin, c'est très étrange parce que le Joker a une sorte de triple masque.
Parce
qu'il y a le visage maquillé qui lui a été arraché, qui remet en masque. Enfin, c'est du coup c'est un personnage.
C'est possible que ce soit
très intéressant.
En plus, tout ce qu'on dit est enregistré, donc on parle vraiment pour les amateurs, je pense.
Du coup,
je crois qu'il y aura un travail à faire là-dessus, mais moi,
j'avoue humblement Isabelle, on va avoir besoin de tes compétences, parce que moi, je...
Oui, j'ai pas l'habitude de ce type d'écran. J'ai mis ma clé, mais je la vois pas apparaître. Et j'ai pas l'habitude d'avoir un bureau avec de travail.
Ouais, je sais, c'est Linux. Il y a un truc bizarre.
Je peux peut-être meubler un peu.
Oui,
ça,
voilà.
Pendant que,
on va faire ça.
Pendant que vous faites ça. Donc, oui, simplement, à titre informatif, et puis j'en laisse quelques-uns, j'en ai pas pour tout le monde, je pense, je devais les rappeler. Obligé d'être intéressé, mais on avait fait une journée à Lyon 3 avec Paul Choplin, d'ailleurs, qui est ici, avec les deux auteurs de Maxa. Il y avait une petite exposition, il y avait une masterclass, il y avait un master, une conférence grand public avec les auteurs. Et donc, on a fait un petit catalogue à l'université, donc là, c'est assez joli objet, avec des dessins originaux, etc. Donc, c'est un peu collector. J'en avais pas beaucoup chez moi, il y en a plus à Lyon 3, mais donc j'avais un D5-6 là que vous pouvez prendre si vous voulez. Ça s'appelait Masque animaux, âmes humaines, donc c'est un peu un hommage à Fanon dans Pas mal l'idée, à Peau noir, masque blanc. Donc ça semblait être vraiment dans le cadre de cette journée. En fait, j'avais pas trop grand chose à dire sur ce thème-là, moi en tant qu'historien, parce qu'une fois qu'on avait dit qu'ils avaient les têtes d'animaux, et que ça permettait un certain nombre de choses au niveau narratif. Dans une perspective historique, j'ai un petit peu de mal à dire beaucoup de choses. On en a parlé d'ailleurs avec les auteurs, et puis j'arrête de parler de Maxa après, tout après. On en a parlé d'ailleurs avec les auteurs, et eux-mêmes avaient des raisons autres que nos interprétations. Bernard nous disait notamment qu'une raison, c'est qu'il aimait bien dessiner des animaux, et qu'il était moins à l'aise dans le fait de dessiner des visages humains. Et puis la deuxième, c'est que c'était très pratique pour un auteur de BD, parce qu'il disait souvent... On est contraint par les éditeurs à un nombre de planches très limité dans un album, ce qui n'est pas évident, hein, 60 planches, 40 planches, et donc on ne peut pas perdre trop de temps à présenter un personnage. Donc quand vous voulez montrer un méchant, vous lui mettez une tête de crocodile, on comprend tout de suite. Ça évite de mettre trois cases avec du texte pour dire, voilà, il est très méchant, c'est un tueur, etc. Bon, ça paraissait être certains arguments sur la chose. Et là, pour avancer, j'appuie ces petites flèches, c'est ça?
Moi, j'utilise les petites flèches.
Sur les flèches, c'est bon. Attends, je vérifie que c'est bon. Oui, c'est bon. Et oui, on peut... Bon, je vais faire comme je peux. Je vais voir ici, c'est un problème. Voilà. Alors, je suis désolé, du coup. Mon exposé est peut-être un tout petit peu décalé par rapport au thème de cette journée, parce que moi, j'avais compris... Je me propose de vous parler du thème du masque, beaucoup plus de manière symbolique. Pas de masque réel, mais plutôt vraiment de la question d'identité, l'identité masquée. Quelle identité se cache derrière une identité plus apparente. Et de revenir à une bande dessinée plus ancienne, plus classique, hein, la BD franco-belge ou BD belge des années 50, où effectivement il y a quand même moins de personnages masqués au sens réel du terme que dans les comics.
américain. Et donc, je vais vous parler d'une série qui n'est peut-être pas très connue par tout le monde ici, qui est la série Tiger Joe, qui est due à Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon, qui est un tandem que vous devez connaître quand même, je pense, puisqu'il est assez connu pour avoir animé notamment Bug Dany dans Spirou, Barbe Rouge, et puis Tanguy et la Verdure dans Pilote. Donc, des grands auteurs de la BD d'aventure pour enfants et adolescents classiques des années 40-60. C'est une bande dessinée qui n'a pas été publiée dans un magazine spécialisé de bande dessinée, mais dans la grande presse, ce qui était souvent le cas aussi dans la bande dessinée belge, hein, puisque Tintin a été publié aussi dans le supplément d'un grand quotidien, le Petit Vingtième. Ça a été publié dans le quotidien d'abord, puis le supplément d'un journal belge qui s'appelle La Libre Belgique, qui existe toujours, qui était assez catholique jusque dans les années 60-70, qui est plus généraliste maintenant. Et c'est une BD qui a été rééditée par la suite par de petits éditeurs, sans atteindre une grande diffusion, mais qui a une certaine importance dans l'histoire de la BD. Elle a quand même pas mal marqué les esprits, et ça, on le voit à travers le fait qu'un certain nombre d'auteurs récents, qui sont dans une veine un peu nostalgique, parodique, y ont fait allusion. Je pense par exemple Yves Chaland, dans la série Freddy Lombard, il y a un épisode qui s'appelle « Le cimetière des éléphants », qui porte le même titre que la deuxième aventure de Tiger Joe, et qui fait référence en partie à la structure de cette aventure. Dans la série Jean de Dufault et Miralles, par exemple, dans la deuxième saison qui se passe en Afrique, il y a un épisode où on voit un chasseur de fauves un peu cruel et ridicule qui s'appelle Tiger Thompson et qui est manifestement une caricature du Tiger Joe classique. Il y a même eu une série dans les années plus anciennes, carrément humoristique, La Jungle en folie, où l'un des héros est Joey le tigre, qui est une inversion. Là, on est dans les private jokes hein, de courantes dans la BD belge. On va mettre en scène de manière un peu ridicule un Hergé, etc. Alors, l'objet de cette communication est de s'interroger sur l'identité américaine ou belge d'un personnage comme Tiger Joe. Lorsque la série paraît, vous le voyez ici, c'est un album qu'a édité la Libre Belgique. Ils ont édité la première aventure en album, puis après ils se sont lassés, ils n'avaient pas vocation à être éditeurs d'album. Lorsque la série paraît, clairement, elle fait référence à une identité américaine ou anglo-américaine. Le nom du héros le dit bien, un Tiger Joe, un nom anglo-saxon, un physique avec ce menton carré, ce personnage costaud, tout droit sorti des séries B hollywoodienne, et effectivement, tous les personnages, bien qu'on soit dans une bande dessinée publiée en Belgique, portent des patronymes anglo-américains. Donc le héros s'appelle Tiger Joe, mais son principal ennemi s'appelle Slim Hunter. Il y a un personnage féminin qu'on voit ici dans la case supérieure qui s'appelle Sheila Killer, dont on apprend assez vite qu'elle est new-yorkaise et qu'elle est une compatriote du héros, donc on déduit que le héros lui-même est new-yorkais. Le meilleur ami du héros, c'est Double Jean, qui devient assez vite Jean, ce qui traduit son penchant pour l'alcool, mais qui est un nom américain là aussi. Et ce qui est amusant, on est dans une Afrique, on le dira par la suite, qui est manifestement une Afrique francophone. À un moment donné, le héros rencontre un administrateur colonial, donc a priori un Belge, et lui-même porte un nom américain, il s'appelle Tim Holden. Donc on est dans une Afrique où il y a des Américains, tous les héros ou les méchants sont Américains. Et là, on peut penser que Charlier et Hubinon exploitent un filon qu'ils ont déjà travaillé depuis un certain temps, puisqu'on est en 1950, quand paraît le premier épisode de Tiger Joe. Ça fait 3 ans qu'ils ont rencontré un certain succès avec les aventures de Bug Dany, qui est un pilote américain, ça paraît dans Spirou. Eux-mêmes sont assez américanophiles. Hein. Charlier est quelqu'un qui est assez marqué à droite. Il a intégré une structure qui est un peu la version belge des fameux syndicates américains qui vendent, vous savez, des bandes dessinées à des quotidiens, qui est la World Press, qui a été fondée par un Liégeois, Troisfontaines. Le dessinateur lui-même a adopté un pseudonyme américain, Victor Hubinon. On est dans ces années 50 en pleine guerre froide, où la Belgique s'ancre assez fortement dans le camp américain. Et donc, mettre en scène des héros américains entre dans une logique assez évidente. Bon, il y a des impératifs commerciaux certainement aussi. On sait que les jeunes Belges de l'après-guerre, un goût de ces productions américaines, et un héros qui s'appelle Tiger Joe, ça va leur rappeler des séries américaines. Et justement, ce Tiger Joe, c'est plus que Bug Dany, c'est plus que simplement des héros qui font référence à une espèce d'Amérique un peu imaginaire, rêvée. C'est en plus un hommage très évident à une bande dessinée américaine particulière qui est Jungle Jim, qui est une bande dessinée due à Alex Raymond, le créateur de Flash Gordon. Alors, Jungle Jim, c'est une bande dessinée, vous l'avez ici, qui paraissait d'ailleurs en même temps souvent dans les Sunday Pages des grands quotidiens américains. C'est la page du dimanche où les comic strips paraissaient en couleur, alors qu'ils paraissaient en noir et blanc sous forme de bande dans les pages de la semaine. C'est une bande dessinée qui paraît en même temps que Flash Gordon. Il y a un peu plus de Flash Gordon en général, et il y a un petit bout de Jungle Jim en haut ou en bas. Cette planche-là est assez amusante, je trouve, parce qu'on voit bien qu'Alex Raymond, finalement, utilise les mêmes péripéties tirées du roman d'aventure exotique. C'est-à-dire qu'on voit Flash Gordon combattre des tigres dans les planches du bas, dans un futur très lointain, et Jungle Jim combattre une panthère en haut, dans une Asie imaginaire. Alors, Jungle Jim, hein, qui est un de ces personnages, là, pareil, hein, d'Américains costauds, menton carré, tricot de corps, qui colle au pectoral. Comment se fait-il que Charlie Hubinon fasse référence à Jungle Jim ? On peut penser qu'eux-mêmes sont des lecteurs de bande dessinée. Et puis surtout, ils savent que ça va faire tilt dans l'esprit des jeunes Belges de l'époque. Pourquoi ? Parce que c'est une bande dessinée qui a été assez tôt diffusée en France et en Belgique, notamment par le journal de Mickey, qui est le grand journal de bande dessinée en Europe francophone à partir de 1934. Et le journal de Mickey fonctionne en achetant justement des bandes aux syndicates et en achetant notamment Jungle Jim, qui a été rebaptisé, ils ne se sont pas foulés, Jim la Jungle. Voici par exemple une page journal de Mickey des années 40, Jim la Jungle et les chasseurs d'éléphants. Et en plus, Jungle Jim a très tôt été adapté au cinéma. Dès les années 30, dès 1937, le studio Universal lance une série de films, de longs métrages autour du personnage de Jungle Jim. Et puis, la Columbia va reprendre le personnage à la fin des années 40 en proposant le rôle-titre à Johnny Westmuller, ancien champion de natation, très connu pour avoir incarné Tarzan, mais il vieillit un peu, il a pris un peu de ventre, pour être trivial, et le pagne de Tarzan lui est moins saillant. Jungle Jim, l'avantage, ça reste dans la jungle africaine, donc il connaît bien, mais il peut mettre une chemise et un pantalon. Et précisément, au moment donc, où Jungle Jim paraît en Belgique, on a là, d'ailleurs ça, c'est l'avantage avec Internet, on trouve tout, ça c'est l'affiche belge, de l'un des épisodes avec Westmuller, L'île des Pygmées, qui est diffusé en Belgique en 49-50, donc juste au moment où Charlie Hubinon crée leur série. Et si on regarde le physique des deux personnages, on voit que le Jungle Jim de Charlie Hubinon, qui est dans la case du haut, n'est pas le Jungle Jim d'Alex Raymond, qu'on voit ici en haut, une chemise rouge, qui est un personnage des années 30, un peu comme Tintin, avec des bottes d'équitation, avec une culotte d'équitation. Il a un casque colonial, on ne le voit pas avec son casque. Alors que Jungle Jim, lui, est un personnage des années 50, chapeau de brousse simplement, chemise et pantalon flottant. Mais on voit surtout qu'il est vraiment calqué sur Johnny Westmuller, que vous avez ici à droite. Alors on voit, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, parce que sans doute qu'avec la lumière, là, c'est pas terrible. Mais vous me croirez, puis on le voit là par rapport à l'affiche précédemment. Donc pour les lecteurs de la bande dessinée en Belgique, c'est évident, c'est le Johnny Westmuller qu'on voit sur les écrans qui est ici mis en bande dessinée. Alors, on peut s'étonner un petit peu de cette apparente identité très américaine, puisque les auteurs sont belges. Le journal, comme le titre du journal, le titre du quotidien le dit bien, est un journal éminemment belge, journal de défense catholique, mais nationaliste aussi au départ, La Libre Belgique. Dans quelle mesure est-ce qu'on a quand même une identité belge qui reste ? Et finalement, est-ce que l'identité américaine n'est pas une sorte de masque factice qui cacherait une identité belge très marqué. C'est mon idée. Alors effectivement, on peut remarquer qu'il y a quand même une belgitude assez prononcée, même si elle ne saute pas aux yeux. D'abord, Jungle Jim évolue dans des espaces assez peu identifiés. Une Asie immense, mais on ne sait pas bien, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Thaïlande, il voyage visiblement comme ça au sein d'une Asie mal identifiée. Alors que, manifestement, Jungle Jim opère dans une colonie européenne bien identifiée, la colonie, c'est-à-dire le Congo belge, la colonie des Belges. Alors, curieusement, il est pratiquement jamais fait allusion au Congo. Il n'y a jamais le mot Congo dans aucun des trois albums. J'ai essayé de regarder dans toutes les cases, je ne pense pas que je me sois trompé, c'est un peu pénible à faire, mais j'ai jamais vu le mot Congo. Simplement, quand on regarde la première planche, il y a un grand dessin, c'est classique souvent dans ces BD belges pour planter le décor, qui introduit l'histoire, et dans le récitatif, dans le cartouche en haut, il est dit que l'action se déroule sur un affluent de l'Uélé. Alors, il se trouve que l'Uélé est un fleuve bien réel du Congo belge. Nous, évidemment, ça ne nous parle pas. Et moi, quand j'avais lu ça pour la première fois, je m'étais dit, c'est sans doute un terme imaginaire qui fait africain. Sauf que ça existe, et sauf que le lecteur belge des années 50 n'est pas le lecteur lyonnais actuel. Le lecteur belge des années 50, il a à l'école appris la géographie de l'Empire colonial belge. Et comme l'Empire colonial belge, il est quand même assez réduit. C'est le Congo, le Rwanda et le Burundi sous mandat. Donc on peut imaginer que l'ULE y connaît. Et en plus, le lecteur belge de la Libre Belgique connaît sans doute particulièrement bien, puisque la Libre Belgique est un quotidien catholique qui soutient particulièrement la colonisation. Faire un petit rappel ici, la Belgique est un petit royaume, bien plus marqué par l'identité catholique que la France républicaine, et très tôt, colonisation et christianisation sont allées de pair. Le roi Léopold II, qui a fondé le Congo, a très tôt signé des accords avec la papauté, un concordat, en confiant pratiquement toute l'action d'assistance, de civilisation scolaire aux missions chrétiennes. Et quand la Belgique a repris en 1908 le Congo, elle a maintenu ses conventions, ce qui fait que c'est certainement au Congo que le lien colonisation-église, colonisation-mission est le plus marqué. On le voit bien dans Tintin au Congo, hein, où la seule action coloniale visible, c'est le missionnaire avec l'école. Et donc, la Libre Belgique, quand on parcourt ce journal, on s'aperçoit qu'il y a énormément de nouvelles qui concernent le Congo, et on dit même dans les années 50 que c'est un journal qui fait un peu les nominations, que les gouverneurs du Congo sont nommés en fonction des articles qui paraissent dans la Libre Belgique. Donc, c'est évident que le lecteur de la Libre Belgique, quand on lui parle de l'ULE, et quand il voit quelque chose qui se passe en Afrique centrale, on n'a pas besoin de lui faire un dessin, c'est le Congo. Et d'ailleurs, dans quelques bulles, on a l'expression « la colonie ». Donc, la colonie, c'est bien clair pour les lecteurs. Mais par-delà cet environnement géographique, il me semble surtout qu'il y a une mise en image de l'idéologie coloniale belge, très forte, qui est une idéologie coloniale un petit peu particulière. Il y a évidemment des préjugés, des stéréotypes, comme le fait que les indigènes soient assimilés à des enfants qu'il faut conduire, qu'on retrouve à peu près dans toutes les nations colonisatrices, de l'Angleterre à la France, en passant par la Belgique. Mais après, il y a quand même des spécificités du discours liées à une certaine histoire. Dans le cas de la Belgique, on vient de le dire, il y a par exemple ce marqueur très fort du catholicisme comme étant le principal porteur de civilisation, qu'on va avoir beaucoup moins dans le cas de l'idéologie républicaine française, où les missions, évidemment, sont présentées souvent comme des auxiliaires utiles, nécessaires à la colonisation. On manque d'instituteurs, donc on a des écoles missionnaires. Mais ce n'est pas le premier acteur de la colonisation. Alors qu'en Belgique, c'est vraiment l'Église catholique, le catholicisme qui est au premier plan en matière de civilisation. Et ça, on le retrouve très nettement dans Tiger Joe, puisque dans Tiger Joe, un petit peu comme dans Tintin au Congo d'ailleurs, on voit très peu d'éléments de la colonisation économique. On ne voit pas de plantations, on ne voit pas d'usines, on ne croise pratiquement pas de colons. Le seul moment où l'on voit la civilisation, entre guillemets, en action en Afrique, c'est quand on découvre la mission. Et on la découvre de manière assez caractéristique, hein, là dans un discours colonial très classique, qui oppose un avant, un après. Les héros et leurs ennemis ont parcouru des territoires horribles, où dès qu'on fait un pas, il y a un crocodile qui va vous manger la jambe. On avance de quelques pas, on tombe sur de cruels cannibales qui n'ont qu'une envie, c'est de vous faire bouillir dans la marmite. Et puis, heureusement, un moment, moment de calme, comme dans Tintin au Congo. On voit l'image du haut ici. Les auteurs sortent de cette jungle sauvage. On entre dans un espace assez bien aménagé, une sorte de grande pelouse, avec des cases bien ordonnées, et le personnage dit « Nous sommes au bout de nos peines, voilà la mission ». Comme quand Tintin au Congo est sauvé par le missionnaire, il est bouffé par les crocodiles, le missionnaire arrive, c'est l'homme providentiel, et hop, nous voilà la mission, et Milou de s'exclamer « Quels as, ces missionnaires ». Et effectivement, la mission, c'est le point central, c'est là où la civilisation est en train de s'accomplir. Et par exemple, c'est assez amusant, alors le missionnaire apparaît assez vite, c'est un personnage tout à fait débonnaire, très gentil, qui va accueillir... Là, c'est les méchants, en fait, qui arrivent à la mission. Il va les accueillir gentiment, mais les méchants vont le ligoter pour s'emparer de ce qu'il possède. Alors, le missionnaire, c'est gratiné quand même, il a un sifflet autour du cou, Et on apprendra un peu plus loin que le sifflet, ça sert à appeler les Noirs. Hein, quand il a besoin de quelque chose, il siffle. Et immédiatement, tous les Noirs accourent. Père, qu'est-ce que tu voulais ? Bon, c'est une vision évidemment assez paternaliste du bon père, mais qui correspond sans doute à ce qu'on a dans les années 50. Et on voit les méchants entrer dans la case du missionnaire et dire dans la bulle, là, voilà, on y trouve tout ce qu'il nous faut. Il y a des armes, il y a des vivres, il y a des médicaments. Ce qui est l'illustration même du discours colonial et catholique belge, la mission est là, non seulement pour amener la vérité et le christianisme, mais là pour civiliser, c'est-à-dire que le missionnaire, il soigne, il y a des médicaments, c'est un chasseur, il a des armes, il y a des vivres, il nourrit la population. Là aussi, on retrouve un peu l'imaginaire de Tintin au Congo. Vous regardez, si vous avez l'album chez vous, quand le missionnaire présente sa mission à Tintin, il lui montre d'abord un hôpital, d'abord une ferme école, une école, et seulement en dernier une chapelle. Comme si c'était avant tout une œuvre économique et culturelle qui se jouait, plutôt qu'une œuvre religieuse. Et le missionnaire dans Tintin au Congo, on ne le voit pas prier, on ne le voit pas baptiser, on ne le voit rien faire de catholique, puisqu'en plus à l'école, on y apprend la géographie de la Belgique. Donc là, on retrouve tout à fait ce discours colonial belge. On pourrait en trouver d'autres illustrations. J'ai le temps.
Oui, 5 minutes,
donc ça va, parce que je vais aller vite après. D'autres illustrations sur, par exemple, aussi un discours anti-esclavagiste sous-jacent. La colonisation belge est une colonisation qui a été particulièrement critiquée, notamment dans le monde anglo-américain, parce que c'est le roi des Belges, au départ, qui avait fondé le Congo. D'ailleurs, de manière assez paradoxale, il avait appelé ça l'État indépendant du Congo, parce qu'il était indépendant d'une nation, il appartenait au roi. Et pour schématiser en gros, le roi ayant quand même pas les moyens tout à fait d'un État, il y avait eu une pression sur les Africains terrible pour que le roi rentre dans son argent, rentre dans ses investissements. On a des cas notamment où on coupait les mains des gens pour les forcer, pour leur faire peur, et pour forcer ceux qui n'avaient pas les mains encore coupées à travailler aux plantations de cacao. Donc c'est une colonisation qui a été très critiquée dans le monde anglo-américain. Et quand l'État belge a repris en 1908, il a fallu justifier ça. Justifier pourquoi on est allé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'a fait le roi. Et une des justifications a été de dire, on y est allé parce qu'il y avait un fléau qui était la traite négrière faite par les Arabes. Ça tombait bien, des musulmans, on est des Belges catholiques, donc ça va bien, tout ça est assez logique, les méchants musulmans qui réduisent les Noirs en esclavage. Et nous, on est allé pour les libérer, pour les sauver. Et ça, c'est quelque chose qui va rester très très longtemps dans le discours colonial belge. Encore en 59, le roi Baudouin, vraiment à la veille de l'indépendance du Congo, fait un discours à la radio belge pour expliquer un peu pourquoi on y était, et il dit, voilà, on a conduit les Noirs, les Congolais, à la liberté et au progrès, après les avoir arrachés des fers des négriers. Et ça, on le retrouve tout à fait dans Tiger Joe, puisque les méchants, qui sont des Américains, vont réduire des Noirs en esclavage, avec les colliers de fer autour du cou. À l'époque, est-ce que c'était utilisé ? C'est une vision très, très symbolique de l'esclavage. Et on voit une personne s'y opposer, le brave missionnaire, qui dit « Vous êtes pire que les esclavagistes ». Là, il est enchaîné, mais sitôt libéré, il va essayer de délivrer les esclaves. Donc finalement, à travers ce passage et ce personnage, c'est un peu le combat de la Belgique catholique contre des négriers étrangers, ici américains, qui se rejoue. Donc finalement, à travers quelque chose qui semble plutôt renvoyer à la bande dessinée américaine, à Jungle Jim, à l'œuvre d'Alex Raymond, on a finalement une entité belge très marquée, qui cadre très bien avec l'idéologie coloniale belge. On a une apparence avec des personnages qui portent des noms américains, avec des références à une série américaine, et puis on a une réalité du discours qui peint une colonie particulière, un Congo belge, où œuvre de sympathiques et intrépides missionnaires, qui à la fois civilisent et apporte l'émancipation aux Noirs. Alors, vous l'aurez compris, l'identité, elle est aussi affaire de réception. C'est-à-dire que ça joue parce que les lecteurs sont lecteurs de la Libre Belgique. Mais que devient cette identité, c'est en deux mots pour conclure, lorsque la BD est lue par d'autres ? Et ça arrive, puisque, vous le savez, la bande dessinée, très souvent, elle est rééditée sous divers supports, et parfois, elle va être reprise dans différents périodiques. Et il se trouve que cette série Tiger Joe, elle est reprise en 1964 dans l'hebdomadaire français Pilote. Ça peut paraître un peu curieux parce que Pilote, on l'associe justement un peu à la rénovation de la bande dessinée. À partir de 63, c'est Goscinny qui en est l'un des co-rédacteurs en chef, et on va avoir des choses beaucoup moins conventionnelles, beaucoup moins conformistes. Le Grand Duduche, Blueberry, qui est un héros qui joue au poker, qui boit, qui fréquente les tripots, etc. On va avoir des, petit à petit, on va aller vers des BD politiques avec Christin Bidal, vers des explosions de la planche avec Druyet, etc. Alors, comment se fait-il que cette BD dont on vient de dire qu'elle est quand même très colonialiste, catholique, traditionnelle, ait pu être prise dans Pilote? D'abord, elle est reprise en 64. Et l'évolution, la vraie évolution de Pilote, c'est plutôt 68. 64, ça commence à se profiler avec Blueberry, qui paraît depuis 63, avec Astérix. Mais il y a encore un équilibre. Il y a encore une partie qui est de la BD classique. Et il se trouve que Charlier, le scénariste de Tiger Joe, est co-rédacteur en chef de Pilote avec Goscinny. Et d'ailleurs, dans Pilote, lui, il opte plutôt pour des séries classiques comme Barbe Rouge, des séries d'aventure. Et on peut penser que Charlier, là, il a envie de recaser une de ses anciennes séries. C'est tout bénéfice pour lui parce que ça génère à nouveau des droits d'auteur et peut-être que ça permettra de relancer l'édition en album. Et puis surtout, il me semble que, justement, lu dans un contexte autre, le contexte français et le contexte des années 60, enfin de 64, c'est-à-dire des décolonisations, les indépendances africaines sont acquises. Finalement, la série prend un autre sens. Le fait qui est peu d'indications géographiques précises, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a jamais le Congo qui est mentionné. Des indications comme l'ULE, le petit lecteur français, le petit Lyonnais 64, l'ULE, ça ne lui dit rien, il va penser que c'est imaginaire. Donc, ça donne le sentiment qu'on est dans une Afrique un peu imaginaire, pas forcément colonisée. Le fait que les personnages aient tous des noms américains, là encore, ça accentue le fait qu'on se trouve dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la colonisation, puisque les Américains n'ont pas pris part au partage de l'Afrique. Et donc, ça peut être lu, finalement, comme simplement une espèce d'aventure exotique un peu imaginaire, et à la limite, quand les personnages ont des discours qui paraissent un peu durs, parce qu'on a une terminologie qui reste quand même celle des années 50, où, par exemple, le héros va traiter les Noirs de macaques ou de moricots, dans la mesure où c'est des héros très américains et caricaturaux. Le lecteur 64 va pouvoir considérer que c'est un peu du second degré. C'est un peu du pastiche de films américains, de séries B hollywoodiennes, justement. Et il me semble que c'est assez caractéristique. La couverture de Pilote, quand ça paraît en 1964, met bien en avant que c'est une sensationnelle aventure dessinée. Avec, guépard, guerrier africain, tous les stéréotypes exotiques de romans d'aventure ou de séries B. Et là, on passe sous silence le discours colonial et catholique ancré dans une réalité belge. Voilà pour ce petit tour d'horizon.
Est-ce que quelqu'un a une question ? Des questions ?
Du coup, pour rattacher à ce qu'on avait dit sur... Du coup, là, le masque identitaire américain finirait par prendre le pas sur la réelle identité belge et permettre la survie du... En quelque sorte, c'est comme ça que...
Tout à fait, oui. Bon, il me semble que c'est... Tout à fait, il me semble que c'est un des aspects intéressants de cette bande dessinée franco-belge. C'est un peu ce qu'il a défini. C'est ce côté d'une bande dessinée faite de porosité, sans frontières, où c'est des créations belges, mais influencées par les États-Unis. Et puis on veut capter le marché français. Donc souvent, on le sait, un Franquin, quand il dessine Gaston Lagaffe, l'agent Lontarin, il a le costume des agents français. Et il y a toujours ce jeu sur les identités. Et curieusement, j'en ai pas parlé, par exemple. Donc là, il y a le masque américain qui l'emporte. Mais dans la Libre Belgique, Tiger Joe va continuer ses aventures, mais plus sous la plume de Charlier Hubinon, parce que Charlier pensait que ça valait plus le coup, que c'était pas très rentable, et c'est d'autres auteurs qui vont reprendre ça à partir de 1958. Sauf qu'à partir de 1958, l'indépendance du Congo commence à se profiler, et donc ça devient gênant de mettre en scène un personnage de chasseur dans le Congo belge. Et donc là, les nouveaux auteurs vont renvoyer Tiger Joe en Asie. Donc finalement, comme Jungle Jim, c'est vrai que je n'avais pas dit, j'ai oublié de le dire, hein, le nom même de Tiger Joe, ça montre aussi la référence à Jungle Jim, parce que Tiger, il n'y a pas de tigre en Afrique. Hein. Donc un personnage qui s'appelle Tiger Joe qui est en Afrique, c'est un peu bizarre. Ils vont renvoyer Tiger Joe en Asie, donc on retrouve un peu le Jungle Jim, sauf que le royaume d'Asie où il le renvoie, c'est un royaume imaginaire en Inde qui s'appelle le Gopal. Et le Gopal, je ne sais pas si vous êtes lecteur de Josette et Joko, c'est un Maharaja du Gopal, inventé par Hergé, dans La Vallée des Cobras, le dernier épisode de Josette et Joko. Donc il y a constamment, là encore, ce jeu sur des identités entre Belgitude, Amérique.
Du coup, j'aurais une question. Du coup, j'ai une remarque, je ne sais pas si vous en serez d'accord, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans les exposés précédents, en tout cas dans le mien, on a tendance à considérer que comme Watchmen vient après, il est plus mûr, plus mature, plus intéressant parce qu'il réfléchit davantage son sujet. Et ce que je trouve très bien dans votre exposé, si je peux me permettre de vous distribuer des bons points, je ne suis pas sûr que ce soit.
C'est plus gentil que si vous me distribuez les mauvais points.
C'est vrai. Mais du coup, je ne sais pas si c'est trop mon rôle, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant dans votre exposé, c'est qu'on voit que ce qui peut apparaître comme du premier degré, c'est-à-dire cet univers congo-belge, etc., en fait, peut être très très bien repris au second degré, et le lecteur lui-même fait appel à tout un tas de codes implicites qui lui permet de décoder la BD, ce qui fait que 10 ans après, dans un autre contexte culturel, on ne reconnaît plus du tout. On peut le faire passer tout à fait autrement pour d'autres lecteurs. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce qui montre que si Watchmen peut marcher comme étant référentiel sur la BD, sur la comics, c'est parce qu'il s'adresse à des gens qui ont déjà lu plein de comics, mais c'est pareil, il y a le même système de on a des codes implicites qui nous permettent de décoder. Donc en fait, le premier degré qu'on croit avoir dans Tiger Joe, c'est déjà un second degré parce qu'il est déjà décodé par des gens qui ont un univers culturel. J'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, j'avais une question, dans quelle mesure, parce qu'on reste quand même dans l'univers occidental, les Français et les Belges, dans quelle mesure, alors je sais pas, c'est peut-être une question un peu théorique, mais c'est une question qui serait amenée à être posée par les post-colonial studies, par exemple. Dans quelle mesure un Congolais, par exemple, pourrait recevoir cette œuvre parce que vous dites, à un moment, on est dans un contexte d'indépendance du Congo, donc c'est pas terrible de faire intervenir des gens dans le Congo belge. Dans quelle mesure un spectateur congolais, cochin chinois, que sais-je, pourrait recevoir cette œuvre? Ou est-ce qu'on est quand même obligé de rester dans un monde occidental? Quelle est la limite de la réception, quoi?
Alors, j'en sais rien, c'est vrai que vous devez les littéraires, vous devez bien connaître ça aussi, hein, c'est un des problèmes, ce problème de la réception de l'œuvre. En histoire culturelle, on aimerait bien savoir exactement la réception de l'œuvre, et souvent on n'a pas beaucoup d'éléments qui permettent de le connaître. Et un album comme Tintin au Congo, on aimerait savoir, c'est clairement une œuvre de propagande quand c'est créé dans les années 30, quel impact ça a pu avoir. Il y a eu tout le débat sur le racisme de Tintin au Congo. Alors là, il faudrait faire des enquêtes d'opinion, c'est pas très évident. Quand on se place dans les périodes historiques, on n'a pas beaucoup de possibilités de savoir. On a des éléments sur la réception savante, on va avoir des journalistes qui dans les années 60 critiquent la BD belge colonialiste, mais ça reste des élites. Et par contre, sur les jeunes lecteurs, on sait pas grand chose. Hein. Même le creux des lecteurs des périodiques dit pas grand chose là-dessus. Sur la réception, mais je pense qu'elle doit être multiple. Hein. Ça doit dépendre évidemment de la culture, ça doit dépendre de l'âge, ça doit dépendre tout ce que je peux vous dire. Enfin, les amateurs de Tintin connaissent bien le fait, c'est que Tintin au Congo, même redessiné en 46 par Hergé, qui avait un peu éliminé les éléments les plus gênants de l'œuvre, posait quand même problème dans la Belgique des années 50 et était assez critiqué. Et Casterman, qui n'avait pas voulu censurer, avait trouvé une politique qui avait le mérite d'être discrète, c'était qu'il limitait l'impression. C'est-à-dire qu'on le trouvait pratiquement plus en librairie. Il était au catalogue Casterman. Moi, je me rappelle avoir vécu ça fin des années 60. Je suis quand même pas si vieux. Quand je commençais à lire Tintin au Congo, c'était dur à trouver. Les libraires n'arrivaient pas à le trouver parce que Casterman ne voulait pas de problème, donc il limitait l'impression. Et c'est les Aérois eux-mêmes qui, dans les années 70, mais là encore des intellectuels Aérois, qui, dans une petite revue aéroise, ont réimprimé Tintin au Congo avec l'argument de dire, c'est se priver d'une source formidable pour qui s'intéresse à la colonisation, se priver de comprendre à quel point le regard des Blancs était stupide sur l'Afrique à l'époque, dans les années 30. Et donc, c'est un formidable instrument pédagogique pour nous, les Africains, et ce qui a amené Casterman à revoir les choses et à le republier.
Finalement, il est réutilisé dans un usage inverse.
Mais ça ne résout pas la question, parce que vous savez sans doute que, vous savez, il y a eu récemment, depuis 2007, un nombre de plaintes déposées en Belgique qui visaient à faire interdire Tintin au Congo. Ça a été relayé par le CRAN en France. Et puis, dans le monde anglo-américain, américain, la version anglaise, puis c'est traduit, de Tintin au Congo, elle n'est pas vendue dans les librairies, dans les rayons pour enfants. Elle est sous cellophane, parce qu'elle doit pas, les libraires ne veulent pas pouvoir avoir de procès, il ne faut pas qu'un enfant puisse le feuilleter dans une librairie. Elle est accompagnée d'un bandeau rouge qui dit bien que c'est un ouvrage historique, à remettre en contexte, véhiculant une idéologie colonialiste, etc., et que c'est un témoignage, et donc ça doit être dans les rayons histoire des librairies. Et par exemple, la série de dessins animés qui ont été faits dans les années, je ne sais plus, 70-80 de Tintin, qui ont été diffusés aux États-Unis, ça ne commence pas avec Tintin au Congo. Hein. Tintin au Congo n'existe pas, parce qu'ils ont eu trop peur d'avoir des procès avec les associations de défense, entre guillemets, des gens de couleur, pour reprendre une traduction des expressions américaines. Mais c'est vrai que ça pose question. Alors, ce que vous disiez aussi, hein, je pense que c'est très vrai, on s'en rend compte. Nous, vous êtes beaucoup entre amateurs de comics. Moi, j'ai lu un petit peu, il y a des séries que je connais, comme Watchmen, d'autres que je connais pas. C'est vrai que souvent, on a l'impression que les auteurs de BD écrivent pour des amateurs de BD et des gens dont ils présupposent qu'ils ont déjà une culture BD. Et il y a beaucoup de jeux là-dessus.
Et on a l'impression qu'on en fait quelque chose de plus intellectuel, qui vaut plus, alors qu'en fait, on présuppose aussi mais d'autres codes, peut-être plus implicites, dans des séries comme Tiger Joe. Et je trouve ça intéressant, justement, de montrer que la culture populaire n'est pas de la culture simplement pour divertissement. Il y a aussi d'autres visées, et on atteint d'autres buts, même si c'est plus implicite. Donc,
oui, et là, je pense, en tout cas, ce n'est pas dénué de messages politiques. Mmh. C'est sûrement, vous l'avez dit, pour les comics... pour les comics récents notamment, mais...
Juste, vous me permettez une remarque, la différence peut-être entre Watchmen et Tiger Joe, c'est que là où la vision première de réception de Watchmen, c'est un public d'aficionados, on peut très bien lire Watchmen en ne connaissant rien aux comics, et en prenant ça comme une énième aventure violente, même si c'est très compliqué à suivre. Mais c'est très dur à suivre, mais c'est possible de lire aussi sans avoir tous les codes, même si on sera incapable de décoder entièrement...
Je pense que c'est quand même difficile parce que Alan Moore, enfin, il y a une opération de distanciation permanente. Déjà, le dessin est quand même assez laid. Enfin, c'est pas laid, mais c'est... Non, mais par rapport à ce qu'on peut faire, il n'y a aucune recherche d'originalité, d'esthétique, comment dire. Oui, alors je m'exprime mal, peut-être. Mais il n'y a pas de recherche de beauté, voilà. Un peu comme dans From Hell, c'est un peu dessiné au stylo bille, c'est hyper rebutant, quoi. Et du coup, quelqu'un ne viendra pas spontanément à l'œuvre, parce que pour apprécier l'œuvre et pour apprécier le côté esthétique, il faut rentrer dedans.
Si je peux donner un exemple de ça, ouais. Sur le fait qu'il faut toujours avoir la référence. En fait, tu dis que le dessin est aride. Le dessin est perturbant surtout à cause des couleurs, qui sont des couleurs très bizarres. On a un spectre de violet, de jaune et de vert. Et en fait, ce spectre-là, il renvoie à un code qui est le code de la quadrichromie, dans laquelle les gentils étaient en bleu et en rouge, et les méchants étaient en jaune, en vert et en violet. C'est pour ça que le Joker est révélé. La couleur doit créer chez les lecteurs aficionados une impression qu'en fait, les gentils sont pas si gentils que ça, puisqu'ils n'ont pas le bon code couleur. Mais encore une fois, il faut maîtriser, il faut arriver avec un...
D'ailleurs, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi il a fait un truc aussi, aussi basique. Aujourd'hui, on n'a pas combien de couleurs, on a des sur papier glacé, etc. On ne comprend pas bien pourquoi c'est comme ça.
Alors que... C'était en 86, c'est
oui, oui, mais il faut du coup arriver avec un bagage de référence explicite.
Mais je pense que la grande différence aussi, c'est que dans les comics que vous avez présentés, c'est vraiment des gens qui jouent avec les codes, qui les détournent parce qu'il n'y a plus de code imposé. Alors que là, dans les années 50, dans la BD belge, j'en ai pas trop parlé ici, mais on est dans une production quand même extrêmement normée et codifiée. Même s'il n'y a pas la loi 49, là, c'est une BD qui paraît en Belgique, donc la loi de 49 française, les publications que la jeunesse ne joue pas, mais dans une publication catholique à destination d'un public, ça va paraître assez vite, dans la Lib Junior, qui est destinée aux enfants. Donc c'est destiné à des jeunes de 12-13 ans. Donc c'est pas de sexe, c'est pas de sang, c'est pas de violence, c'est un héros entièrement bon, etc. C'est des codes extrêmement...
Comme les codes autoritaires.
Tout à fait.
Il va tout à fait pareil. Enfin,
il y a une différence,
mais oui, c'est bien.
Voilà, on est un peu dans la même...
Puis même la contrainte, comme vous disiez, de 40-60 planches, j'imagine que ça... du coup, avoir du premier degré, le masque, par exemple, c'est des raccourcis qui permettent d'aller plus vite à l'essentiel, j'imagine, comme vous disiez... Sur Black Sad, il n'y avait pas besoin de présenter les méchants, c'est un crocodile, bon, il est méchant, quoi. Et donc, c'est seulement quand on donne plus de liberté qu'on peut se permettre d'être plus,
Et puis c'est une différence quand même aussi de la BD de la franco-belge, c'est que par rapport aux comics, hein, c'est vraiment une BD pour des raisons historiques qui s'est plutôt développée vers la jeunesse en France comme en Belgique au départ, alors que les comics américains étaient plutôt au départ des BD pour adultes, hein, dans la grande presse. Et donc là, on a cette norme très forte de ce qu'on peut dire à des enfants ou pas.
Schématiquement. Le super-héros particulièrement était à disposition des enfants. Il faut pas, en fait, il y a les comic strips qui étaient ce qu'on publiait dans les journaux du dimanche, qui étaient plutôt pour tout public, et il y avait les comic books qui étaient des fascicules de 24 pages sur papier dégueulasse à destination des enfants qu'on achetait 5 centimes. Donc il y a les deux en fait, mais ça s'est finalement orienté vers un lectorat jeune assez vite, et notamment à partir de 54 avec cette fameuse loi de censure qui est.
Mais du coup, est-ce que tu penses que l'identité des super-héros s'est complexifiée à mesure qu'on est sorti aussi du format très feuilletonesque du comics, ou ça a aucun rapport?
On n'est pas sorti du format. Watchmen s'est publié en 12 épisodes de 24 pages. Mais non, on n'est pas du tout sorti de ce format-là. C'est pas. Enfin, il y a tout le discours autour du graphic novel qui est une façon. Plus vendeuse et plus racoleuse de dire comic book, mais sinon c'est juste la terminologie qui a changé, mais la réalité du médium elle reste très publication.
Sur cette remarque, je propose qu'on aille tous manger. Alors on se retrouve, enfin sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter, on se retrouve à 14h